Je vous invite à chercher dans votre Bible l'évangile de Matthieu et de regarder plusieurs choses ce matin. On a vu tout à l'heure dans le récit qui nous a été lu le point de vue de Marie en Luc. Et ici, on voudrait regarder le point de vue de Joseph au chapitre 1er de Matthieu et puis des versets 18 à 25. Je vous fais la lecture. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Jésus-Christ, Jésus le Messie. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il nous arrive souvent de considérer certains événements de nos vies comme des accidents, des choses inattendues, ingérables, perturbantes. J'ai même entendu à une occasion que une grossesse était un accident. C'est jamais un accident, une grossesse. C'est toujours un événement qui est voulu par Dieu, en tout cas. Mais le récit de la naissance de Jésus, selon Matthieu, nous montre exactement l'inverse. Ce que les hommes peuvent percevoir comme un accident est en réalité, dans les mains de Dieu, une œuvre intentionnelle, une œuvre précise, prophétique. La venue de Jésus est tout sauf un accident. C'est le plan éternel du Dieu trinitaire qui s'accomplit en faveur des hommes. Et ce matin, je vous propose de regarder rapidement la conception par Dieu le Saint-Esprit. On verra ensuite l'exécution du plan éternel de Dieu le Père. Et puis enfin, on verra la mission de Dieu le Fils. Regardons tout d'abord la conception par Dieu le Saint-Esprit. Le texte commence ici avec visiblement comme un problème. Marie, fiancée à Joseph, se retrouve enceinte avant leur union, avant qu'ils aient habité ensemble, nous est-il dit. Ils n'ont eu aucun contact sexuel. Comme le dit Marie à l'ange l'évangile de Luc, elle dit comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Et Joseph sait que lui, il n'est pas le père. Ça, c'est clair pour lui. Puisqu'il n'a pas eu de relation avec Marie, il sait que ce n'est pas lui. Et il présume que Marie a couché avec un autre homme. Mais il ne supporte pas l'idée de la diffamer, c'est-à-dire de jeter le déshonneur sur elle en exposant son présumé péché. Et du coup, il décide de rompre secrètement avec elle. Alors que Joseph y réfléchit, certainement, il cherche comment il va dire ça à Marie. C'est Dieu qui prend l'initiative. Il envoie un ange qui lui apparaît en songe et qui lui dit « Ne crains pas, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » L'origine de la grossesse de Marie est surnaturelle. Cette conception du Saint-Esprit est très importante parce que si Jésus est le fruit de relations sexuelles en dehors du mariage, alors il est un simple homme, né d'un homme et d'une femme pécheurs. Et donc, lui-même, pécheur. Et donc, il ne peut rien pour nous. Pas plus que moi, je peux quelque chose pour vous. Mais si Jésus est véritablement né du Saint-Esprit et d'une femme vierge, alors il est né de Dieu. Il est saint. Il est sans péché. Il n'est pas comme nous. Il n'hérite pas de la flétrissure du péché. Et donc, il peut nous sauver. Il peut payer pour nous. Et pour Joseph, ça signifie qu'il peut épouser Marie sans crainte. Cela atteste plutôt de la fidélité de Dieu à ses promesses. De toute évidence, la conception de Jésus par le Saint-Esprit est un grand mystère pour nous. Même s'il avait voulu le faire, comment Dieu aurait-il pu nous expliquer dans des termes que nous pourrions comprendre de quelle manière le mélange entre l'humain et le divin a pu se faire? Nous ne pouvons pas davantage imaginer un Dieu créateur ayant créé l'univers à partir de rien. Ça nous surprend. Ou bien qu'il soit un seul Dieu en trois personnes, chacune étant pleinement Dieu. C'est un peu ce que le symbole de la Trinité ici qu'on a essayé de représenter essaye d'évoquer. Regardez, il y a ces trois personnes, mais Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont représentées par ces trois formes-là, et qui ne sont qu'un seul trait, en fait. Et puis au milieu de tout ça, il y a un cercle. Le cercle montre l'unité, montre aussi l'éternité. Et donc il y a une chose que l'on peut représenter comme cela, mais des choses que notre intelligence, notre compréhension n'arrive pas à concevoir pleinement. La plus grande œuvre de Dieu commence par un moment qui, humainement, paraît totalement déroutant. Regardons à présent l'exécution du plan éternel de Dieu le Père. Dans le verset 22 que je vous ai lu, il est dit ici que tout cela arriva afin que s'accomplisse la parole de Dieu, ce qu'avaient annoncé les prophètes, longtemps à l'avance. Matthieu, il utilise fréquemment cette expression, rien que dans le chapitre 2 qui suit, toujours sur la naissance de Jésus, l'arrivée des mages, etc. Il en parle au verset 15, au verset 17, au verset 23. Il rappelle que tout cela est arrivé selon les Écritures, c'est-à-dire selon des prophéties qui avaient été faites très longtemps à l'avance. Et donc, la venue du Fils est voulue depuis toujours. Elle est annoncée par les prophètes et elle est réalisée maintenant par l'incarnation. L'ange, le messager de Dieu, appelle Joseph fils de David, c'est-à-dire descendant du roi David, de la lignée des rois de Juda, de laquelle le Messie doit venir. Et Matthieu cite Ésaïe chapitre 7, verset 14, en disant « Voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils. » C'est exactement 750 ans à l'avance que cette prophétie avait été faite. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie quoi ? Dieu avec nous, verset 23. Au moment de la prophétie d'Ésaïe, en 750 ans avant Jésus-Christ, le peuple de Juda et sa capitale, Jérusalem, sont menacés par une coalition de deux rois qui veulent attaquer Jérusalem. En annonçant la naissance d'un enfant né d'une vierge, qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu nous rappelle qu'il n'abandonnera pas son peuple. C'est cela qu'il est en train de leur dire. Je vais vous donner un enfant. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire, je ne vous abandonnerai pas. Face à cette terrible attaque, je ne vous abandonnerai pas. Et puis, ça signifie, Dieu agit dans l'histoire. Il est capable de faire venir un enfant. pour protéger et sauver. C'est aussi, le signe nous rappelle, la naissance de cet enfant nous rappelle que Dieu est présent, même dans une situation de crise que peut traverser Israël. Eh bien, dans son incarnation, Jésus, au sens le plus littéral, est Dieu avec nous. Comme pour nous dire que Dieu a compassion de nous, pécheurs. Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre éloignement. Il veut encore nous sauver. Et dans cette situation de crise que vous traversez peut-être, il est là. Dieu est là. Dieu n'est pas seulement au-dessus de nous, il est avec nous. Présent, accessible, proche. Il a connu notre condition humaine avec toutes ses luttes et ses tentations, sans jamais y succomber. Et l'évangile de Matthieu commence avec cette parole. Un fils vous est donné, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et tout à la fin de l'évangile de Matthieu, l'évangile termine avec « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est en train de dire « Non seulement je suis venu, mais maintenant je reste avec vous pour toujours. » Vous aviez l'impression peut-être que Dieu était lointain. Vos cœurs peuvent être éloignés. Mais Jésus est Dieu avec nous. Il peut entendre votre prière. À Noël, nous contemplons ce plan éternel devenu visible dans un enfant, Emmanuel, Dieu avec nous, venu pour nous sauver. Et regardons maintenant sa mission, la mission de Dieu le Fils. L'ange ordonne dans notre passage à Joseph de donner à l'enfant le nom de Jésus. Jésus, ça signifie « Dieu sauve ». Et l'explication est au verset 21, « Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Ainsi, le nom de Jésus contient déjà sa mission. Jésus vient pour opérer un salut radical intérieur, le pardon et la libération de nos péchés. Et ce n'est pas en premier lieu un sauveur politique, c'est un sauveur spirituel, envoyé par Dieu pour restaurer l'humanité dans la communion avec Dieu. Il touche le problème fondamental du cœur humain, à savoir le péché, notre péché. Le peuple a besoin d'être sauvé de ses péchés, il est dit ici, comme nous tous. Pourquoi ? Mais parce que le péché nous sépare de Dieu. Ce n'est pas juste une faute morale, le péché. C'est une rupture de relation. Le péché dit à Dieu, « Je n'ai pas besoin de toi. Je fais ce que je veux. » Il brise également les relations entre les hommes. On en a tous fait l'expérience. Le péché également nous enchaîne. Il domine nos cœurs, il nous emprisonne, il nous prive d'une véritable liberté, il nous conduit à des comportements destructeurs. Le péché nous conduit à la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement une mort biologique, mais une mort éternelle, c'est-à-dire une séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et puis, nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous n'arrivons pas à changer en profondeur. Le péché ne peut pas être réglé par la religion. Le péché ne peut pas être réglé par la pratique de bonnes œuvres ou de pénitence ou je ne sais quoi. Quand nous faisons le bien, nous ne faisons que ce que Dieu nous demande de faire. Et ça ne peut aucunement compenser nos fautes. C'est notre cœur qui est malade. Et il nous faut un nouveau cœur. Et c'est parce que le seul moyen de nous sauver, c'est la venue de Jésus-Christ que Dieu a véritablement envoyé son Fils. S'il y avait eu un autre moyen de nous racheter, de nous ramener à Dieu, de nous permettre de goûter à une communion nouvelle avec lui, il l'aurait donné. Le seul moyen, c'était la venue de quelqu'un parfait qui paye pour nous. Le Fils de Dieu s'incarne à Noël. Il mène une vie parfaite, conduite par le Saint-Esprit, dans laquelle le Père prend un total plaisir. Et à 33 ans, dans la force de l'âge, le Fils est condamné. Il est condamné à mort, il est condamné à tort, par de faux témoignages, par des juges jaloux et incrédules. Et là encore, on aurait pu crier à l'accident, au scandale, à la catastrophe. Mais c'est le plan du salut de Dieu qui s'accomplit. Le juste meurt pour des injustes, payant pour leurs péchés et obtenant pour eux et pour tous ceux qui croient un plein pardon. Il paye pour nous obtenir tout ce que nous avons perdu par le péché, à savoir la communion avec le Père, la vraie liberté de ne pas pécher, la vie véritable, qui est l'exact opposé de ce que nous méritons. Et tout cela nous est offert par grâce, comme un cadeau. C'est pour cela que Noël est lié avec tous les cadeaux, parce qu'on veut se souvenir que nous avons reçu un cadeau que nous ne méritions pas. Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Comment recevoir un tel cadeau ? Je termine avec ces versets 24 et 25 qui nous parlent de Joseph. Regardons ce qu'il fait. Il est dit ici, « Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » C'est-à-dire, Joseph, il obéit sans discuter. Il accueille Marie, il protège l'enfant, il lui donne son nom. Je ne sais plus maintenant comment on fait aujourd'hui pour inscrire les enfants, là, déclarer les enfants, la naissance d'un enfant. Mais à mon époque, le père devait aller à la mairie et donner le nom de l'enfant. Il avait intérêt à pas se tromper. Mais seul le père pouvait donner le nom de l'enfant. C'est-à-dire, c'était comme lui dire « Tu es mon fils, je t'adopte, tu es dans ma famille. » Et c'est ce qu'a fait Joseph ici. Il lui donne juridiquement son fils, il devient juridiquement son fils. C'est l'obéissance de la foi en fait. Il croit, alors il accomplit ce que Dieu lui a dit. Et on sait qu'il a cru parce qu'il a obéi. Joseph et Marie ont cru et ont obéi à Dieu, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mené une vie parfaite désormais, mais ils ont commencé à obéir à Dieu et à agir par la foi. Vous pouvez également croire vous-même que Jésus est venu pour vous sauver de vos péchés. Et ça fait toute la différence dans une vie. Quand on croit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, alors nous avons la joie. Alors on peut vivre différemment. On peut vivre avec cette glorieuse espérance d'être un jour réunis avec Dieu pour l'éternité. On peut jouir d'une communion comme vous la voyez ici, entre frères et sœurs. On peut mener une vie qui ressemble à notre Père céleste. On peut garder une communion avec lui. Ce n'est pas un accident, c'est le plan du Dieu trinitaire. Le Saint-Esprit a réalisé l'incarnation, le Père a réalisé le plan éternel et le Fils a réalisé notre salut. Dieu travaille souvent au cœur de situations que nous ne comprenons pas. Peut-être c'est votre cas aujourd'hui. Vous traversez une situation dont vous ne comprenez pas. Dieu travaille. Ce qui nous dépasse peut être précisément ce que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Et la foi consiste à accueillir ce que Dieu fait, même quand cela bouscule nos plans. La naissance de Jésus, c'est la preuve que la grâce de Dieu n'arrive jamais par hasard. Elle est intentionnelle, elle est prophétique, elle est accomplie. Et dans ta vie, Dieu continue d'agir de manière tout aussi surprenante, mais tout sauf accidentel. Que Dieu vous bénisse. Un très joyeux Noël à tous. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de ce que, à Noël, tu t'es incarné pour venir nous sauver. Merci de ce que ce plan, c'était le plan éternel de Dieu. Parce que tu voulais nous avoir avec toi. Parce que tu voulais effacer notre peine, notre dette. Parce que tu voulais restaurer une pleine communion avec toi et entre nous. Seigneur, sois béni pour une si grande nouvelle. Merci Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.